Vous êtes sur RTL.
On refait le match sur RTL.
Avec Christian Olivier.
Bonsoir, bonsoir ou bonjour à toutes et tous. On refait le match 38e de la saison. 38, je salue les auditeurs du département de l'Isère et notamment les supporters du Grenoble Foot 38 qui jouent ce soir à Auxerre et avec actuellement 61 points restent en course pour le marathon des barrages et une éventuelle montée en Ligue 1. La Ligue 2, ce sera la 37e et dernière et avant-dernière journée avec un début de verdict et ce sera à suivre ce soir à partir de 20h dans RTL Foot. Avec moi en studio, Philippe Sanfourche, chef de la rubrique football de RTL. Bonsoir Philippe.
Bonsoir Christian, bonsoir à toutes et à tous.
Dominique Sévérac, le Parisien aujourd'hui en France, partenaire de notre service d'espoir. Bonsoir Dominique.
Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs.
Et mademoiselle également peut-être.
C'était générique, ouais, mademoiselle évidemment.
Bonsoir Sébastien Tarago, la chaîne L'Équipe, bonsoir.
Ça va, le Clermont Foot a fait très mal à Grenoble il y a quelques jours.
Oui,
avec
oui.
Clermont Foot,
on sent l'Auvergnat
vous,
qui
vous
parle.
Allez finir par les voir en Ligue 1.
Non, on ne sent pas l'Auvergnat. On sent le spécialiste de la Ligue 2.
Ah d'accord.
Ouais. Sébastien Tarago. Petite question Ligue 2 dans les tirs au but.
Aucun souci si c'est sur Clermont.
Et oui, ce sera sur Clermont.
Ou Chambly, ça va.
Les deux. Sur Clermont. Gilles Verlaise, le procureur dont refait le match. Bonsoir, cher Gilles.
Bonsoir.
Émission 100% interactive filmée sur RTL.fr ou via notre célèbre application avec tous vos messages sur le non moins célèbre compte Twitter @RTLFoot. Relayez ces messages par Baptiste Durieux. Bonsoir camarade.
Bonsoir tout le monde.
Alors les résultats de cet après-midi, Nantes-Bordeaux, vous avez suivi le match évidemment, Nantes-Bordeaux.
Hein, bien sûr.
La large victoire du FC Nantes 3-0. Et le match de 17h actuellement, eh bien 3-0 également pour Lyon face à Lorient. On file à Lyon dans un court instant. Vous écoutez RTL et vous avez bien raison.
RTL. On refait le match.
Alors messieurs, par quoi commence l'actualité incroyablement dense ce samedi? Le sprint du championnat, on en parlera jusqu'à 19h. Je vous demanderai pour une fois de vous mouiller en me donnant votre favori pour le titre. Que faut-il changer? Que faut-il changer au PSG après son élimination face à City? Certainement pas Neymar qui reconduit son contrat. Du Neymar, eh bien, les supporters en auront jusqu'en juin 2025. Alors avec cette question, est-ce bien raisonnable? Voilà, c'est une question. Est-ce que c'est un contrat? On va y répondre, on va prendre notre temps.
Non, c'est sur 25, c'est pas sûr 25. 25 c'est
ah bah, il peut partir avant, bien sûr. Voilà. Alors Emery, Tuchel, Tourelle, Thiago Silva, Cavani en finale de la Ligue des Champions et en finale de la Ligue Europe, le PSG est totalement humilié dans sa politique sportive. Ou Leonardo, après tout. Bon, sauf pour Emery, bien évidemment, car il n'était pas aux commandes à ce moment-là. Tiens, à propos d'humiliation, je vous posais la question suivante également. Les renégats de la Super League sanctionnés financièrement et peut-être sportivement, pour ou contre? Et puis Tchao Tovin, hein, pas Tchao Pantin, mais Tchao Tovin qui part au Mexique rejoindre Gignac. Est-ce un bon choix? Et puis il y aura donc les tirs au but avant 20h. Un petit hommage également à monsieur Christophe Revault dans un court instant. Le direct, le quatrième but, Lyon-Lorient. Bonsoir Raphaël Vantard.
Bonsoir messieurs, bonsoir à tous. C'est effectivement le quatrième but à l'instant signé Bruno Guimaraes, Lyon qui fait le break et qui prend le large dans cette partie. Ça avait été difficile en première mi-temps et là c'est Guimaraes à l'instant qui vient d'inscrire ce quatrième but après avoir marqué le penalty quelques minutes plus tôt et c'est Paqueta qui avait marqué le troisième but et le premier a été inscrit par Oussem Aouar. Les Lyonnais qui déroulent et qui maintenant mènent 4-0 ici sur leur pelouse. Ils vont pouvoir tranquillement regarder Monaco demain et leur mettre un petit coup de pression.
Et à 4-0, c'est même un double break, cher Raphaël. Et on parlera quand même du pénalty de Guimaraes, hein, qui m'a un peu fatigué. Messieurs, Christophe Revault, qui a disparu brutalement cette semaine, 49 ans, c'est l'emblématique gardien du Havre, on est d'accord. Il a commencé sa carrière au Havre, il l'a terminé au Havre. Il est passé également par le PSG, par Rennes, par Toulouse. Je crois qu'on peut aller lui dédier cette émission et puis évidemment présenter nos condoléances à son entourage et à sa famille. C'était un pivot, une belle figure, une bonne personne de la première division, puis de la Ligue 1.
C'était quelqu'un de profondément humain. Moi, je me souviens que je lui avais mis des notes terribles dans les journaux dans lesquels j'ai travaillé et à chaque fois, je voyais son visage blessé, mais allant demander pourquoi, avec une sorte d'humanité. Je regrettais même de lui avoir mis les notes qui me semblaient justifiées. Et je trouvais à chaque fois que la manière qu'il avait d'affronter ça, parce que pour un joueur, quand vous avez un dans l'équipe, voire zéro, c'est compliqué professionnellement. Eh bien, cette humanité-là, elle m'a profondément marqué.
Voilà. Dominique Sévrac, vous l'avez peut-être connu un peu à l'époque du PSG.
Non,
ça n'a pas été simple d'ailleurs au PSG.
Mais justement, il ne faut pas garder cette image-là de sportivement, il ne faut pas garder son passage au Paris Saint-Germain. Il vaut mieux se concentrer sur Rennes, sur Toulouse, sur Le Havre, parce que c'était un super gardien, notamment sur sa ligne. C'était une bête, je crois qu'on l'appelait Bioman ou Robocop, selon les camarades qui l'entouraient. Il faut rappeler que techniquement, c'est un super gardien et que son passage à Paris, c'est sans doute le moins bon dans sa carrière. Il y a des matchs ratés. Il y a le fameux match
contre
le Bayern Munich.
Et il en a fait quelques bourdes également en championnat.
Oui, évidemment. Voilà. Donc ça, c'était peut-être que le niveau était peut-être trop haut pour lui. Il n'a pas vécu non plus l'équipe de France de manière longue.
Il y avait l'ombre de Bernard Lama aussi. Hein, voilà.
Ce passage parisien, il ne faudrait pas que ça soit ça qui phagocyte le reste. Mmh. Parce que humainement, un mec en or, écorché vif, très sensible.
Tout à fait.
Voilà, mais un bon mec du foot. Quoi.
Sébastien Tarragou.
Oui, et puis c'est un garçon qui, lorsque Toulouse était descendu en national, était resté, alors que bien sûr il aurait pu aller jouer ailleurs. Voilà, il a marqué le football français et surtout bien sûr la Ligue 1. C'était trop haut, oui, le PSG. Puis c'était dur à l'époque. Il y avait une pression au Paris Saint-Germain à cette époque-là qu'on ne soupçonne pas. Elle est très différente aujourd'hui. C'est autre chose, mais c'est un tout petit peu plus sain. Quand ça se passait mal, quand vous arriviez au Paris Saint-Germain, waouh, ça pouvait vite être très très compliqué. Donc voilà. Et puis il a vécu une longue carrière. Il a commencé au Havre, il a fini au Havre. Vous l'avez pu être honoré pour un dernier match. Il avait 38 ans, je crois.
Après... 49. Ah oui, quand il a arrêté, pardon.
Il a fini assez tard. Et c'était en Ligue 2. Bon, voilà, ces dernières années, c'était un petit peu plus compliqué pour lui. Voilà, c'est évidemment très, très triste. Et à la réaction de. Quand les gens partent, les réactions.
Ils ont toutes les qualités.
Oui, mais là. Il y a quand même un élan de sincérité qui ne trompe pas, à mon avis.
Fidèle, sincère, très bon gardien de but et qu'aller voir les gamins au centre de formation du Havre pour toujours leur parler avec un petit mot. Philippe Sansfourche.
Oui, c'est vrai que c'est assez unanime sur le caractère humain du personnage. C'est vrai que l'image qui reste malheureusement, c'est ce fameux match à Munich, mais il faut regarder les carrières de gardiens dans leur entièreté, dans leur globalité. Il a été exceptionnel quand il était au Havre. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le PSG l'avait choisi pour être le successeur de Lama.
Exact.
On était quand même dans une période où on avait Barthez et Lama qui étaient peut-être les deux meilleurs gardiens du monde en même temps dans le même pays. Donc arriver derrière Bernard Lama, et on l'a dit, dans des conditions rocambolesques, puisque Bernard Lama n'est pas parti tout de suite, donc il avait effectivement ce fantôme, cette ombre tous les jours à l'entraînement derrière lui, donc c'était forcément très très compliqué.
Et mais... pour ceux qui n'ont pas connu Bernard Lama, pardon, quand vous l'aviez derrière vous, c'était pas simple quand même.
Et vous avez raison, Philippe, il était exactement derrière lui. Vous vous souvenez, à l'époque au camp des loges, il y a Revault qui s'entraînait, ouais. Et Bernard Lama sur le terrain annexe, qui s'entraînait lui aussi et qui regardait l'entraînement de Revault. Et pression folle.
Finalement, si on fait le bilan en 20 ans, en 25 ans, entre Lama et Navas, pas un gardien n'a existé. Tous ont été broyés, tous sont ressortis affaibles par rapport au moment où ils sont.
Edel un peu, non?
Oui, j'aime beaucoup. Cette...
Voilà, ben justement.
Non, mais j'ai des très bons gardiens comme Landreau, comme Letizy, sont ressortis en difficulté de leur passage au Paris Saint-Germain. Donc c'est extrêmement compliqué.
Et pour être complet, il faut également quand même préciser que le parquet du Havre a ouvert une enquête pour déterminer les causes de son décès. On se doit de le préciser également. Voilà, mais on voulait rendre hommage à Christophe Revault dans On refait le match. 18h38, on va tourner, messieurs, une page de publicité. Confirmation du score, 82 minutes de jeu, toujours 4-0 désormais pour Lyon face à Lorient. Et on va donc, évoquer. Réduction de l'écart. On arrête tout.
Tout est relancé.
On arrête tout. Tout est relancé, Raphaël Vantard.
Eh oui, magnifique réduction du score signée Monconduit d'une frappe assez lointaine aux 30 mètres, pleine lucarne qui trompe Anthony Lopez et qui redonne un tout petit peu de suspense à ce match, même si Lyon a fait le break, hein, 4-1 ici au Groupama Stadium, mais frappe assez jolie, assez belle et qui en autre temps aurait pu peut-être relancer ce match. 4-1 pour l'OL ici, 84e minute de jeu.
Allez, la pub et ensuite mouillez-vous, messieurs, vous me donnerez votre favori pour le titre de champion. À tout de suite.
RTL, on refait le... On refait le match.
Christian Olivier sur RTL.
Toujours 4-1 pour Lyon face à Lorient. On fait le match avec Philippe Sanfourche, Dominique Sévrac, Gilles Verdez, Sébastien Tarrago au classement provisoire. Très provisoire, Lyon va dépasser Monaco, mais Monaco qui jouera demain contre Reims, qui se déplacera au stade Auguste Delaune, alors que pour le haut du tableau, en vous rappelant que Lille a explosé Lens, on en parlera d'ailleurs, on parlera également de M. Turpin dans un instant, sur le score de 3-0, c'était hier soir, le PSG se déplacera à Rennes, match à 21h à suivre sur l'antenne de RTL. Il est difficile de donner votre favori, pronostiquer le champion de France.
Ça devient plus facile.
Mais je pense que Lille a quand même une sacrée longueur d'avance par rapport au Paris Saint-Germain.
Moi, je vous dis, il reste deux journées, c'est facile.
Oui, voilà, il y a 4-5 journées. Il y a 3 journées. Je pensais que Paris allait arracher ce titre. Je dis sincèrement, d'ailleurs, je l'ai peut-être dit ici, je ne sais pas.
Donc samedi dernier, c'était il y a 3 journées. Donc,
il y a 2-3 matchs. Je pensais encore que Paris allait chercher ce titre. Voilà, vraiment. Là, avec ce match, je pensais que Lille allait perdre des points contre Lens. Ce n'est pas le cas. Bah, évidemment que la voie s'ouvre quand même de manière considérable. Ce n'est pas fini, évidemment non plus.
Si, Sébastien, c'est fini. Le championnat, il est. Et là, c'est terminé le sort de Lyon-Lille.
De Lyon-Lille.
Ah oui,
ouais, je pense.
Bien sûr, ouais. Ça ne bougera plus. Ça ne bougera plus. Vous avez le classement, là. Je ne veux pas vous.
Vous
avez le classement. Je veux dire,
Monaco sera troisième.
Lille premier, Paris deuxième.
Ah, mais non, mais moi, c'est ce que je vous ai donné samedi dernier, Sébastien.
T'as donné, ça avait dit que rien ne changerait. Mais très bien.
C'est fini, Christian. Oui, c'est fini. Vous avez le classement. Le classement dans le
coup. Évidemment, mais vous en prenez moins quand il reste simplement 2 journées pour Lyon, notamment, puisque c'est plié.
Non, je suis honnête avec vous.
Vous êtes un honnête homme.
Non, ça dit qu'il y a 3 semaines, je pensais que Paris allait.
Évidemment, je ne peux pas imaginer que M. Turpin ferait n'importe quoi hier soir.
Alors, parlons-en de M. Turpin. Est-ce qu'il a gâché le derby?
Ça aurait peut-être pas changé grand-chose.
Est-ce qu'il a faussé le résultat?
C'est grave. Au bout de 20 minutes, il y a penalty et rouge.
Il n'a pas faussé le résultat, mais il a scellé le sort de la rencontre au bout de 15 minutes. Voilà. Alors que ce n'était absolument pas nécessaire. Sur le penalty, on a tous une opinion. Globalement, ça peut siffler comme ça peut ne pas siffler. Il n'y a pas de scandale ni dans un sens ni dans l'autre.
Mais qu'il aille voir la vidéo.
Il se trouve que c'est à la première. Oui, alors ça, c'est vrai.
Mais qu'il aille voir la vidéo.
Pour le calme de tout le monde et pour le fait de partir sur des bases saines où personne ne pense qu'il peut y avoir incompréhension ou une décision prise à l'emporte-pièce, effectivement, psychologiquement parlant, c'est peut-être mieux d'aller voir la vidéo.
Mais il ne va la voir, Philippe, que si quelqu'un dans le car, dans la régie.
Oui, lui dit il y a un doute.
Il y a un doute. Voilà. Il suffit qu'il y en ait un qui lui
dise. Mais il y en a un, manifestement.
Qui lui
dise,
écoute, moi je suis d'accord avec toi, c'est validé.
Je veux bien que les arbitres soient des professionnels, même dans la camionnette, mais on a des yeux, on a la même vue que ceux qui vont vous dire qu'ils connaissent un peu mieux le football que vous.
Je déteste ça.
Enfin, je veux dire, on voit bien aussi, on peut considérer que Bamba vient aussi s'empaler sur Fanfana.
Je suis d'accord avec vous, parce que moi je vous dis qu'il n'y a pas penalty, mais je déteste la VAR, mais à partir du moment où la règle, c'est que quelqu'un dans la régie vous dit, je suis d'accord avec toi, Clément. Il y a pénalty, il n'a pas à aller voir la vidéo.
Oui, mais après, peut-être que tout le monde était d'accord. Mais juste pour conclure sur cette histoire de la 15e minute, il prend cette décision d'accorder le pénalty. Ok, très bien, c'est sa responsabilité. Il le sait, un match, c'est une histoire. Dans l'histoire du match, dès la première minute, il y a ce pénalty. Il y a un premier carton jaune sur Michelin, qui, à mon sens, est tout à fait logique, on est d'accord. Mais derrière. Admettons que sur ce duel aérien, il y ait un petit peu d'emportement, que ça aurait pu, s'il n'en avait pas déjà un, occasionner un jaune. Très bien. Mais mettre ce deuxième jaune au bout d'un quart d'heure à des Lensois qui sont déjà menés 1-0, ça veut dire que c'est terminé, c'est plié, tout le monde à la maison. Et ça, Clément Turpin, avec l'expérience qu'il a, il ne peut pas tomber dans
ce cas. Donc c'est un duel aérien avec Celic, de mémoire, et il vient lui poser la main sur le coup.
C'est même pas un coup de coude,
Gilles Verdez.
Moi, ce qui me gêne beaucoup, et au-delà de. Je ne veux pas personnaliser, donc au-delà du problème d'arbitrage lié à M. Turpin, mais je l'oublie, c'est que Lille est certes champion sur le terrain, mais c'est surtout le champion des instances. Les instances ont décrété il y a quelques mois que Lille serait champion de France. C'est ça qui me gêne dans ce championnat. Parce que, je vous rappelle que Lille devrait être rétrogradée administrativement après un changement d'actionnaire au milieu d'exercice.
La saison n'est pas finie, Gilles, ça sera peut-être le cas.
J'en sais rien, mais en tout cas, au niveau des finances, ils étaient dans le rouge total. S'il y a une DNCG, elle doit interdire à Lille non seulement de réaliser des transferts, mais de jouer. Puisque tous les joueurs qui sont là, ils ont été achetés alors qu'il n'y a pas d'argent. Les transferts sortants, on disait que c'était du trading, rien n'est rentré, les chiffres sont faux. Donc Lille est bâtie encore une fois sur un château de sable. Alors, plus l'arbitrage. Parce que pourquoi les arbitres favorisent Lille? C'est parce que les instances ont dit aux arbitres, favorisez Lille. Moi, ça me choque énormément.
Non, mais Gilles,
bref, je suis choqué.
Sur les clubs qui n'ont pas ou plus d'argent, qui ont des caisses vides, vous en faites disparaître 5 ou 6 alors. Hein.
En tout cas, Lille, un changement d'actionnaire au milieu alors qu'ils sont ruinés, on n'a jamais vu
Gilles,
ça.
Sur la première radio de France, on voit ça justement parce qu'ils sont ruinés.
Non, non.
Parce qu'il faut que quelqu'un revienne capitaliser.
Vous ne pouvez pas cautionner ça.
Je ne cautionne pas ça parce que je suis d'accord avec vous.
Dites que vous êtes contre.
Je suis d'accord avec vous lorsque vous dites que c'est bâti sur un château de sable.
Oui.
Ça, certes. Mais alors, l'histoire de l'arbitrage, c'est drôle parce que on connaît vos outrances, Gilles.
Mais je vous parle de fait.
Mais en l'occurrence, Olivier Létang et Sylvain Armand, ils trouvent tellement que l'arbitrage leur est défavorable qu'ils vont se plaindre et qu'ils vont râler dans les couloirs tel un
Sylvain
Leonardo
Armand,
de bas étage.
Quand il marquait un but, il ne comprenait pas qu'il avait mis un but.
Gilles, on est d'accord que vous êtes venu sur la première radio de France ce soir nous annoncer que le championnat est truqué.
J'ai dit que les instances ont choisi Lille, mais vous savez très bien.
Dit qu'ils ont demandé aux arbitres.
Ils ont choisi Lille.
Avec les consignes, vous avez dit c'est des faits.
Est-ce que Lille ne devrait pas être rétrogradée?
Donc vous nous dites que le championnat est truqué.
Je dis que les instances ont choisi Lille. Voilà,
mais
c'est ma phrase.
En demandant aux arbitres. Ils ne sont jamais rétrogradés en cours de saison.
Mais il n'y a pas d'argent à Lille, il n'y avait plus d'argent.
Quelles sont les preuves?
Il n'y a plus d'argent à Bordeaux, il n'y a pas d'argent à Saint-Etienne, il n'y a pas d'argent nulle part.
Ils n'ont pas changé d'actionnaire parce qu'ils étaient ruinés.
D'ailleurs, le nouvel actionnaire a mis un peu d'argent au pot.
Gilles, je ne demande qu'à vous croire. Quelles sont les preuves?
Mais attendez, ils ont été obligés de changer d'actionnaire. Il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus d'argent. Le trading, c'est bidon. Le transfert d'Osimhen, on a dit qu'il avait rapporté combien? Les chiffres en caisse, c'est
25,
combien?
C'est 25.
Voilà.
En fait.
Et on a dit 60, 70. Oui, voilà.
Donc on a dit 80.
Voilà, 80. Et c'est 25. Lille, c'est que ça.
Bon, vous faites diversion. Moi, je voulais vous parler du football. Je voulais parler de Turpin.
Je vous explique pourquoi les arbitres.
Turpin, parce que Gilles ne veut pas personnaliser le débat. Je ne sais pas s'il
Le personnalise sur l'actionnariat de
s'il y a des accointances avec M. Turpin ou si c'est par manque de courage, qui n'arrive jamais.
Je ne connais pas.
S'il y a bien un reproche qu'on ne peut pas lui faire, c'est celui-là. Moi, je le dis clairement, M. Turpin était, dans la première partie de sa carrière, comme souvent les gens qui arrivent très tôt parce que doués, parce que également poussés par l'ensemble de la DNA du football français, il avait une forme d'arrogance, de petit chef, une nécessité de montrer son autorité qui n'était pas naturelle. On pouvait éventuellement lui reprocher. Et je trouvais que dans un second temps, une fois qu'il a digéré tout ça et qu'il a commencé à avoir des rendez-vous internationaux réguliers sur des matchs de Ligue des Champions, puis sur la Coupe du Monde, je trouvais qu'il avait gagné en maturité et qu'il n'avait plus ces défauts-là. Et là, il retombe totalement, pleinement, depuis maintenant plusieurs mois, dans ses travers. C'est-à-dire qu'il arrive sur le terrain, on voit à son attitude, on voit dans son regard qu'il ne veut pas transiger, qu'il ne veut rien expliquer. Il fait le petit chef. Il lui faut un képi et un sifflet.
Surtout, Philippe, il reste sur le dramatique Monaco-Lyon, où il a donné des cartons rouges. On ne sait toujours pas pourquoi, puisqu'il y a eu un match de suspension pour De Chilio et pour Marcelo. Et De Chilio, il peut jouer parce qu'ils ont fait appel.
J'ai l'impression que les Lyonnais, ils n'avaient pas fait grand-chose.
Ils n'avaient pas fait grand-chose.
La commission est bien embêtée parce qu'elle ne veut pas complètement enlever la suspension.
Hier soir, au bout d'un quart d'heure, le match est scellé. Donc, il reste sur deux catastrophes dans le championnat de France, sur des matchs hyper importants. Je veux dire, Monaco-Lyon, les conséquences du Monaco-Lyon.
Je vous rappelle quand même que l'UEFA a choisi également M. Turpin pour diriger les rencontres de l'Euro 2021.
Il est poussé par les instances françaises.
À un moment donné, l'UEFA fait son choix aussi.
Je préférais qu'ils prennent Stéphanie Frappart.
Mais ce sera le cas également, en numéro 4. Enfin, voilà. en arbitre. Voilà. Enfin, je veux dire, c'est l'UEFA.
Il aurait pu ne pas le prendre. Ils auraient pu ne pas le prendre, mais en revanche, s'ils en prenaient un, c'était lui.
Bon, on va tourner une page de publicité, c'est On fait le match, 18h50, vous écoutez RTL et nous sommes ensemble jusqu'à 20h. On débriefera, du match, car le match est terminé désormais, Lyon-Lorient, c'est bien cela, Raphaël Vantard.
Exactement, 4 buts à 1 pour l'OL, ouverture du score par Aouar, doublé de Guimaraes et Paqueta contre un but de Monconduit côté Lorientais. À noter que les Lyonnais se dirigent hors du stade actuellement pour aller saluer leurs nombreux supporters qui sont à l'extérieur et qui ont fait beaucoup de bruit pendant toute cette rencontre et qui ont poussé leur équipe qui l'emporte donc 4 buts à 1 et qui grimpe ce soir à la 3ème place du classement.
Jusqu'à 19h, merci Raphaël, on débriefera de ce match, on débriefera également de la fin du championnat. J'ai un autre coup de gueule à pousser justement, il n'y a pas eu une minute de silence à propos concernant la disparition de Christophe Revault, ni sur ce match-là, ni à Nantes. Quand même pas compliqué d'organiser une minute de silence.
Le conseil d'administration de la Ligue n'a pas dû encore se réunir, comprenez.
Ils attendent peut-être.
La publicité.
RTL, on refait le match.
On refait le match sur RTL.
Avec Christian Olivier.
La suite d'On fait le match avec Philippe Sanfourche, Dominique Sévrac, Gilles Verdez, Sébastien Tarago. Si vous nous rejoignez, Lyon vient de battre Lorient 4-1 au classement provisoire. Lyon passe Monaco avec un total de 73 points. Monaco 71 points. Monaco peut reprendre la main demain à partir de 17h05. Déplacement au stade Auguste Delaune face à Reims en attendant le match du PSG qui doit recoller 75 points. Sur Lille, 79 points. Ce sera pas simple pour le PSG sans Verratti. On en parlera après 19h du PSG. Hein. On parlera des vestiaires, du terrain, des ambitions, de la politique sportive et de la reconduction, évidemment, du contrat de Neymar. Parlez-moi, messieurs, s'il vous plaît, de la large victoire de Nantes sur Bordeaux. Match de 13h, 3-0. Nantes n'est pas encore sauvée et Bordeaux s'enfonce peu à peu au classement.
Oh non, mais Nantes a Sébastien une dynamique qui lui permet désormais même d'envisager éventuellement d'éviter les barrages. Je pense que c'est même sûr que c'est désormais l'objectif du club en interne. D'aller chercher, oui, une place qui lui permettrait d'éviter ce duel face à une équipe de Ligue 2. Et du côté de Bordeaux, ben écoutez, il y a du monde, mais c'est pas, voilà, Bordeaux aujourd'hui n'est pas maintenu et peut tomber en deuxième division. C'est la situation à Bordeaux est gravissime.
La victoire contre Rennes la semaine dernière donne un petit peu d'air.
Ouais, mais c'est pas
non, c'est pas fait.
Je vous donne le classement, hein. Bordeaux a encore quand même 39 points. Nantes effectivement 37 points désormais, mais reste 18e, mais recolle sur Lorient et Strasbourg. Demain Strasbourg recevra Montpellier et Lorient là n'a pas pris de points, vient de s'incliner. Gilles Verdez.
Il faut quand même rendre hommage au travail des coachs. Moi je mets Domenech dans la liste parce que pour moi il a été injustement évincé, mais Comboiré Comboiré a bénéficié de la remise en forme de Domenech, pour moi.
Mais Comboiré,
là, il a redonné confiance à Koulibaly, 3 succès de suite. Il y a quand même une dynamique de ce coach qui, quand il arrive quelque part, il arrive psychologiquement à débloquer des groupes. Alors, au plus haut niveau, ça passe pas, sans doute. Mais quand même, il y a quelque chose chez Comboiré.
Ça dure plus ou moins longtemps, parce qu'à Toulouse, ça n'avait pas duré longtemps.
Mais, hein. Non, mais excusez-moi, c'est pas fait pour durer longtemps.
On a commencé.
Non, mais là, il n'a pas été pris pour durer longtemps. Il a été pris pour, en quelques matchs, permettre à une équipe agonisante de redresser là-bas. Et elle le fait.
Après, Gilles, si Nantes reste en Ligue 1, il a un contrat qui court.
Oui,
et il avait dit qu'il resterait. Il avait dit qu'il partirait
Mais l'objectif, c'est du court terme. Moi, franchement, Bordeaux est atomisé, autant Nantes revient.
Le programme nantais, c'est du velours. Hein. Le week-end prochain, déplacement à Dijon, déjà condamné. Dernière journée face à Montpellier.
Mais Gilles a raison.
Qui ne jouera plus rien.
Gilles a raison. Au Real Madrid, on se demande si on va garder Zidane ou prendre Raymond Domenech. Je crois que Guardiola est menacé par l'arrivée de Domenech à Manchester City.
Ah oui, vous avez relancé Dominique Sévrac.
C'est vrai qu'il est cité un peu partout en Europe.
Vous, c'est Lille et Dominique Sévrac, c'est Domenech.
Non, mais on plaisante. C'est les chiffres.
Pourtant, vous entendez bien avec Raymond, c'est bizarre.
C'est un terrible camouflet quand même. Qu'est-ce qu'on va retenir de cette saison nantaise? C'est que tout le monde était d'accord pour dire que c'était un effectif limité, que les recrutements sur les deux dernières saisons avaient été ratés. Gourcuff avait tenté par le jeu, par différentes...
C'est de la flûte.
Non, mais
Gourcuff, il ne fait pas plus de jeu que Domenech, je vous le dis, moi. Vous avez vu tous ces matchs? Non, mais arrêtez. À Lorient, à chaque fois que Lorient faisait une passe...
C'était pas le but devant l'attention. Massacrer Gourcuff.
Mais le but, c'est de saquer Domenech.
Le fait est que tout le monde pensait que cette équipe était condamnée parce qu'un effectif, parce qu'un état d'esprit qui n'allait plus. Domenech est arrivé, non seulement ça n'a pas été mieux, mais ça a été le naufrage absolu. C'est-à-dire que les récits qu'on a dans le vestiaire, les joueurs ne comprenaient même pas, ils se demandaient s'ils parlaient en français.
Non, mais là,
Comboiré qui est la cible idéale, parce que ça fait maintenant 2 ou 3 ans que c'est devenu le symbole, soi-disant, du football français qui ne sait pas réfléchir, des entraîneurs qui misent tout sur le physique, sur on va leur rentrer, on va leur marcher dessus, et puis on a aucun jeu à mettre en place.
C'est pas faux, il se cache pas non plus.
Mais le fait est qu'il a réussi tout de même psychologiquement. On est quand même sur quelque chose qui était absolument impensable. Et je trouve que si on fait globalement le bilan de la saison, le passage de Domenech est un naufrage absolu.
Je viens avec des faits.
Mais c'est un naufrage par la force des choses. Il y a eu les défaites que vous avez énoncées. C'est 7, c'est ça. Mais évidemment, en revanche, n'exagérez pas non plus. Et je vous trouve à la limite de l'aspect humiliant. C'est-à-dire qu'il y a aussi plein de joueurs qui ont dit qu'au niveau foot, purement foot, Domenech,
il les avait bluffés. En revanche, il était en décalage total avec cette génération, ce vestiaire. Il n'était pas capable. Il leur donnait trop de responsabilités aussi. Ça, c'est un échec.
Finaliste de la Coupe du Monde, Domenech.
Palois, il est allé voir les dirigeants pour leur dire qu'ils ne comprenaient pas ce qu'ils
faisaient. Messieurs, l'heure de la publicité, l'heure des informations de 19h, l'heure peut-être de reparler de Domenech et Comboiré après 19h, même si l'actu nous conduira au Parc des Princes, enfin au Paris Saint-Germain ou au Camp des Loges, comme vous voulez, en tout cas avec la reconduction du contrat de Neymar et avec ce qu'il faut changer ou pas au sein du Paris Saint-Germain. Publicité.
RTL, on refait le match.
On refait le match sur RTL.
Avec Christian Olivier.
19h05, on fait le match. Sébastien Tarrago, la chaîne d'équipe, le procureur, Gilles Verdez, Dominique Séverac, le Parisien aujourd'hui en France, chef de la rubrique football, Philippe Sanfourche, les deux résultats de l'après-midi, si vous ne les connaissiez pas encore. L'équipe de Lyon a battu Lorient 4-1, match de 17h, et cet après-midi, 13h, match de 13h, l'équipe de Nantes a battu Bordeaux par 3-0. On a parlé donc du championnat, mais en même temps, on ne peut pas poser des questions très très précises, car on va attendre. Bon, Lille, on a compris que Lille était quand même le grandissime favori.
C'est fini,
désormais.
C'est fini.
Et attendez, Lille reçoit Saint-Etienne. On n'est jamais à l'abri.
Est-ce que Paris va perdre à Rennes, Dominique ?
Mais oui, c'est fini. Le classement, vous l'avez. Le classement va rester tel qu'il est.
Monaco, c'est ce que je pense, mais on ne peut pas comme cela. Ou alors, si vous me dites qu'à la une du Parisien aujourd'hui en France, demain, vous mettez c'est fini. Je vous suis.
Le problème d'un journal, Christian, c'est que c'est collectif.
Oui, bon, alors.
On ne fait pas comme je veux.
Dans les pages du sport. Non,
c'est collectif aussi.
Au Parisien, c'est quand même toi qui décides de tout.
Je peux pas le dire.
On peut le dire aux gens quand même.
Lille reçoit Saint-Etienne donc le week-end prochain. Et Lille se déplace à Angers le week-end suivant.
Mais
vous avez sans doute raison, Dominique.
Si défaite de nul, depuis que Moulin a annoncé que c'était fini, c'est fini, vraiment.
C'est fini partout.
Non, le match n'est pas fini. Ils ont gagné à chaque fois qu'il fallait gagner. Et que ce soit contre le PSG, contre Lyon, ils ont gagné. Donc ils peuvent jouer n'importe qui. De toute façon, il reste deux matchs, ils vont les gagner.
C'est fini.
Ah oui, c'est fini.
C'est fini. Donc
quand à Paris, ils finissent bien leur championnat en général. Ligue des Champions, pas Ligue des Champions.
Alors là, pour le coup, j'aurais dû modifier ma question avec le PSG, car éliminé en demi de la Ligue des Champions, c'est fini, selon Sévrac, en championnat. Échec industriel, accident industriel pour le Paris Saint-Germain.
Voilà, c'est ma question.
On a pris rendez-vous avec Baptiste Durieux et les auditeurs qui nous écrivent également sur le compte @RTLFoot avec Baptiste, donc émission 100% interactive.
Absolument. Beaucoup de messages d'abord sur Clément Turpin, évidemment, arbitre de la rencontre hier entre Lille et Lens. Message de Nicolas. La faculté de Turpin à se retrouver acteur principal d'un match est assez fascinante. Et son petit air hautain à chaque fois qu'il dégaine, formidable. Ça, c'est pour Philippe Sanfourche. Sébastien également nous dit Turpin incarne l'anti-foot et la faillite de l'arbitrage français. Sensibilité foot déficiente, mauvaise intelligence d'un événement, rigidité psychologique, mauvaise communication, mauvais langage corporel, autoritarisme, égo mal placé, un tue-l'amour et un handicap pour la Ligue 1. Le message était bien écrit, donc je me suis permis de le relayer.
Dominique Sévrac qui parle de...
Sincèrement, Turpin, monsieur Turpin, un bon fond. Excusez-moi,
mais vous venez de le massacrer il y a des minutes.
J'ai posé la question. Moi, je me souviens d'une anecdote.
Il a été massacré.
Et la question, c'est pas qu'il ait un bon fond ou pas un bon fond, c'est qu'il soit un bon arbitre ou un mauvais arbitre.
Oui, mais c'est pas non plus un mauvais arbitre.
Non, je sais pas, je vous écoute, j'ai rien dit sur M. Turpin. Je m'intéresse pas. Tant qu'on mettra pas de micro sur ces arbitres, il est, paraît-il, en privé
très satisfait de sa personne.
Oui, bon, en privé, il fait ce qu'il veut en privé.
Non, mais sur son rôle d'arbitre.
Moi, je me souviens. Philippe aussi, on n'en fait pas toute une histoire.
Il dirige pas les matchs.
Quand il a démarré dans la carrière d'arbitre, ça devait être dans les années 2008-2009. Je m'en souviens très bien, car dans le multiplex, on avait un gimmick avec tous ceux qui présentent l'émission, c'était de dire l'excellent monsieur Turpin.
Ah bon?
Non, à ses débuts, oui, l'excellent monsieur Turpin.
Parce qu'il avait 31 ans. Mais ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il a été tellement identifié comme la perle rare, comme celui qu'on devait porter au pinacle.
Tout le monde.
Philippe disait qu'il était déjà très agaçant à ses débuts.
Ah oui?
Non, pas au début. Je vous assure, il est bon et agaçant. Alors, je vais vous finir de raconter une petite anecdote. J'avais en 2009, peut-être 2010, le privilège encore quand on avait les trophées UNFP. Vous vous rappelez l'opération UNFP? J'avais eu le privilège de donner un trophée à Lyon, je ne sais plus à quel joueur. Et donc, ensuite, fin de match, c'était Monsieur Turpin. Et je le rencontre sur le parking. Et vraiment, d'un commerce très agréable. Et en nous disant, parfois, vraiment, vous êtes un peu sévère avec nous. Et donc, on échange changer, etc. Mais vous savez, monsieur Olivier, on peut se tromper, c'est vrai, vous avez raison, on peut se tromper. Donc à l'époque, je veux dire, humilité, à l'époque, pas de vidéo, et à l'époque, un monsieur Turpin n'a commercé rien.
Il a dit ce que vous voulez entendre sur un parking, c'est facile.
Oui. Bah oui.
Il vous a rien volé sur le parking, non, ça va.
Non, mais vous êtes sérieux, quoi.
Christian,
oui, vous mais... levez le doigt maintenant, Gilles.
Bah, je vous lève le doigt respectueusement, toujours, moi, je suis obéissant.
Mais après, par contre, il y a quand même un énorme carton.
Non, mais. Alors, il faut que je te dise. Moi, je ne critique jamais les arbitres. Oui. Jamais. Parce que sinon, après, ce sont les arbitres du dimanche sur les terrains amateurs. En ce moment, il n'y en a pas, mais qui se font fustiger. Mais nos arbitres français sont quand même une armée de nuls. Et c'est pour ça.
C'est vrai que vous ne critiquez jamais l'arbitre.
Jamais. C'est pour ça que M. Turpin est dans tous les grands matchs, toutes les institutions du football, parce que les autres, à part Mme Frappard, sont nuls depuis des années. Nous n'avons aucun arbitre au niveau. Ils sont formés par des mauvais, ils arrivent mauvais et ils restent encore plus mauvais.
Non, mais là, vous êtes sévère, pas
mais qui sont nos grands arbitres ? Citez-moi, quels arbitres français, en rugby, on a des arbitres qui arbitrent les plus grandes compétitions. Moi, je regarde tous les matchs de rugby, partout.
C'est vrai que quand arrivent les demi-finales de Ligue des Champions, bon, il y avait une équipe française, mais c'est toujours M. Bridge, l'allemand, c'est M. Orsato, l'italien.
C'est jamais un français.
C'est M. Laos, l'espagnol. Il n'y a jamais, tu reprends.
Si on autorise Kuiper à insulter les joueurs du Paris Saint-Germain.
Mais ils sont nos grands arbitres, il n'y en a pas.
Il y a juste une chose, il a raison, Gilles, là-dessus. Et la question, c'est de savoir pourquoi. Et il y a depuis plusieurs décennies un entre-soi dans le domaine de l'arbitrage. Et des protections des uns et des autres pour des raisons qu'on a du mal à identifier, en tout cas qui ne sont pas de bonnes raisons, et qui fait que le système est vicié. Puisque tout le monde, ils sont notés par d'anciens confrères, c'est une catastrophe ce système. Parce que, encore une fois, il y a eu trop d'histoires dans l'arbitrage français, des clans qui amènent à l'absence de progression. Et à un moment... Si on ne fait pas partie du clan, on ne progressera pas. On ne sera pas amené à faire des grands matchs. Et ça, il y a un truc qui ne va pas. En plus de cela, il y a effectivement, globalement, une forme de prétention et d'absence de remise en cause qui n'amène pas à la performance que vous
avez reçu, monsieur Garibian, récemment.
Oui, alors justement, je me propose de faire une petite synthèse, non pas celle de l'ancien Parti Socialiste, mais une petite synthèse entre Gilles Verdez et Sébastien Tarrago, où Gilles a raison, les arbitres ne sont pas forcément à leur meilleur niveau quand ils sont professionnels, mais ça... ensuite, il y a des répercussions désastreuses sur l'arbitrage du foot amateur. Mais c'est pour ça que moi, pendant très longtemps également, je ne critiquais pas les arbitres, même quand ils faisaient des erreurs. Donc je suis d'accord avec vous. Oui, mais Sébastien a raison également sur ce côté un peu corporatiste des arbitres à défendre leurs précarés, à défendre leurs intérêts. Moi, j'en ai parlé très souvent avec Pascal Garibian. Il n'est pas du tout sur la même ligne, mais il a du mal à l'entendre.
C'est normal, c'est le responsable. C'est le responsable. Tout ce qu'il a dénoncé.
Il n'y a pas un arbitre qui a eu le courage à un moment donné de dire que la VAR ou le VAR, comme vous voulez, n'était pas le process idéal. Il n'y a pas un arbitre qui s'est élevé pour dire...
Mais tout le process...
Il peut aller sur une île déserte.
Un peu de courage, Philippe. Il se saborde, celui qui dit ça.
Sébastien a stigmatisé, c'est l'échec du mandat de Garibian. Il n'a pas fait progresser l'arbitrage français. Je suis désolé. Entre son arrivée et aujourd'hui, il n'y a pas une progression, il n'y a pas un arbitre qui émerge, il n'y a pas un assainissement du body language, du langage corporel des arbitres. Il reste toujours autant, même quand il y a une parenthèse, M. Turpin dit, Philippe, reviens dans ses travers. Il n'y a que Mme Frappard, Stéphanie Frappard, qui émerge.
Mais c'est à peine. Vous étiez les premiers à la critiquer.
Moi, je ne critique jamais.
Non, mais
je m'adresse comme ça, de façon collégiale. Un match, ok, mais ça c'est pas grave, ça arrive. Ouais, ça arrive à tout le monde. Neymar a des matchs. C'est pas le souci. En revanche, l'attitude, c'est autre chose. Et quand effectivement il y a cette forme d'arrogance, pourquoi ? Ils ont un idéal répressif. C'est quoi l'idée en fait ? Ils sont là, c'est difficile, c'est un métier difficile. C'est une fonction difficile. Vous avez 22 joueurs, plus des arbitres, plus un banc de touche autour de vous qui peuvent vous mettre de la pression. On est d'accord avec tout ça. Mais justement, ne venez pas dans un état d'esprit négatif. Il faut essayer de... Vous, excusez-moi, mais vous êtes le maître d'école. Et le maître d'école, à un moment, avec ses élèves, il doit être positif.
Donc il faut venir avec la banane, il faut taper dans le dos. Faut...
Mais oui, bon, il faut établir un lien de confiance.
C'est du foot.
C'est du foot, c'est un jeu. Il faut établir un lien de confiance.
C'est un spectacle, monsieur Sévrac. C'est pas un jeu, le football. C'est un spectacle. Vous consommez du football, maintenant. Philippe Sanfourche.
Les meilleurs arbitres européens, à mon avis, techniquement parlant, ne sont pas meilleurs que les arbitres français. Sur la connaissance du jeu, sur l'expérience des situations, je pense qu'il n'y a pas de différence. La différence se situe dans le rapport à l'autorité, le rapport aux joueurs. Et on le sent, on voit bien. Parfois, il ne s'agit pas de se taper dans le dos. Il suffit d'un regard, il suffit d'un petit mot, de quelque chose pour comprendre qu'on est ensemble sur le terrain et qu'on comprend le jeu de la même manière. Alors que l'arbitre français se ferme et créer une rupture pour montrer qu'on n'est pas du même monde. Et donc, ça donne lieu, comme ça, ça crée le terreau du conflit.
25 ans que ça dure, cette histoire.
Non, monsieur Lurtz, monsieur Vautreau, monsieur Kini.
Mais ça, c'était il y a 40 ans.
Ah oui. Chaperon, il y avait Duhamel.
Ça, c'est l'époque où les joueurs avaient la même personnalité.
Monsieur Chaperon, c'était quand même pas un arbitre premium.
C'est ce que je vous dis. Il y a eu Chaperon, il y a eu Duhamel, il y a eu tous ces gens-là qui ont aussi abîmé l'arbitrage.
Monsieur Vessière.
Monsieur Vessière, pas non plus.
Bon, je pensais pas qu'on allait faire un quart d'heure sur l'arbitrage.
Passons à autre chose.
Alors,
parlons du jeu.
Accueillons Gaël Slimane, le patron de Doxa. Bonsoir Gaël Slimane.
Bonsoir Christian.
Bonsoir Gaël. Alors, c'est la dernière ligne droite, les enjeux arrivent, le PSG verdict ou pas. Et quand c'est la dernière ligne droite, nous avons droit à la visite des grands patrons. Bien habituellement, sûr. Émile Leclerc ou Erwan Lestrohan, directeur d'études de Doxa. Mais là, attention, c'est Gaël Slimane, le boss de Doxa. Pour nous parler du Paris Saint-Germain, Gaël, et le baromètre sondage que vous avez réalisé cette semaine est vraiment très riche d'enseignements. Et on va terminer presque par le meilleur avec Neymar. Tout d'abord, rappelons que le PSG a été éliminé par City. Et cette élimination a été jugée totalement logique par l'ensemble des Français et des amateurs de foot, Gaël Slimane.
Oui, et ça c'est intéressant, Christian, parce qu'on a le sentiment d'une certaine maturité des Français là-dessus. Ils ont le sentiment que le PSG n'a pas su hisser ce niveau de jeu pendant la demi-finale, les trois quarts des Français, le diagnostic comme ça. Que City était une meilleure équipe et que finalement, c'est un beau parcours pour le club que d'accéder pour la troisième fois de son histoire seulement à une demi-finale. Mmh. Donc il y a un jugement qui est assez clé, finalement.
Alors la ligne est assez délicate, Gaël Slimane. On va essayer maintenir de la rétablir, ou en tout cas de la maintenir, mais assez rapidement. Concernant les principaux points faibles du Paris Saint-Germain, vous avez proposé les qualités collectives, les qualités mentales, la tactique ou la condition physique, le résultat.
C'est surtout des qualités collectives et des qualités mentales qui, selon les amateurs de foot, ont manqué aux Parisiens, plus que les aspects tactiques ou physiques.
D'accord. Le Paris Saint-Germain qui n'a donc pas convaincu, mais est-ce que le Paris Saint-Germain, pour les Français, les amateurs de foot, a convaincu l'idée que le Paris Saint-Germain pourrait remporter dans les 3 ans la Ligue des Champions désormais ?
Ça n'a pas beaucoup évolué, Christian. On a une majorité de Français qui ne le croient pas, 7%. Les amateurs de foot, plus convaincus, mais c'est seulement 53%. Et surtout, ça n'a pas évolué depuis 5 ans et depuis la dernière défaite contre City en quart de finale à l'époque de Ligue des Champions. Donc on a l'impression qu'on fait un peu du surplace quand même.
Et dans ce contexte, est-ce que les amateurs de foot souhaitent voir donc Neymar, car Neymar a prolongé son contrat, rester au Paris Saint-Germain ? Quel est le résultat ? Et je rappelle que vous avez fait par définition ce résultat avant l'annonce de cet après-midi.
Ouais, c'était juste avant et vous voulez me faire de la peine, Christian, parce que moi je suis un immense fan de Neymar et malheureusement je suis un peu seul. Les amateurs de foot, eux, comptent beaucoup plus sur Mbappé. Ils auraient préféré que Mbappé prolonge son contrat. Les trois quarts d'entre eux attendent ça. Pour Neymar, cette nouvelle ne sera pas une si bonne nouvelle pour une majorité d'amateurs de foot.
Merci Gaël Slimane. D'autres informations sur ce baromètre Odoxa Winamax, demain 9h avec Philippe Sanfourche. On n'a pas parlé de City, de Chelsea.
Mmh. Oui,
qui a débuté à 18h30.
1-0 City.
Mais de Sterling. Parce qu'il se livre, Sterling. Mais
Et Agüero qui vient de tirer un pénalty qui a rendu fou Guardiola.
Avant de retrouver ces deux équipes.
Une panne karaté.
Quand on l'a réussi, c'est bien. C'est joli, bon.
Le Paris Saint-Germain éliminé par City. Que faut-il changer au sein du Paris Saint-Germain ? Pas Neymar, qui a donc reconduit son contrat, messieurs, jusqu'en juin 2025. Est-ce que c'est un contrat déraisonnable ? Est-ce que c'est une proposition qui est donc actée, signée désormais déraisonnable ?
déraisonnable. Je peux pas ne pas me réjouir d'avoir Neymar en Ligue 1. Je suis la Ligue 1, c'est mon pain quotidien et c'est un des joueurs les plus fantastiques que j'ai vu en Ligue 1. Mais le problème avec Neymar, c'est jamais le football. Le problème, il ne s'agit pas de football avec Neymar. Le problème, c'est son hygiène de vie, c'est ses blessures, c'est est-ce qu'il a envie d'être un leader positif ou un leader négatif. Et depuis qu'il est là en 2017, bah, ça dépend. Il y a un coup, c'est un leader positif comme au Final Eight de Lisbonne, et un coup, c'est un leader négatif comme PSG Lille, où il s'abîme dans des bagarres avec des Lillois, ou même sur les deux matchs contre City, j'ai pas très bien compris où il en était. Et puis, c'est des nombreuses blessures qui traduisent une hygiène de vie douteuse, malgré ce que lui dit et ce que dit le club.
Il y a une phrase que j'ai trouvée assez forte cet après-midi, lors de la conférence de presse de Mauricio Pochettino, et c'est quand même suffisamment rare pour être souligné depuis qu'il est arrivé, et justement, elle résonne. C'est que à la question de savoir comment optimiser les performances de Neymar, comment faire en sorte qu'il apporte plus sur les saisons à venir que ce qu'il a montré depuis qu'il est là, l'entraîneur du PSG ne se cache pas du tout. C'est-à-dire qu'il dit voilà, maintenant le défi, notre défi, c'est que le Paris, il veut pas citer spécifiquement Neymar, mais la question est posée sur Neymar. Il dit c'est que on n'est plus une somme de talents individuels, mais qu'on est un talent collectif. Il faut que les joueurs jouent en équipe, joue pour l'équipe. Il faut que ce soit l'équipe qui soit au centre de tout. C'est le défi pour les années à venir. Ça traduit dans un langage très policé, très politique, tout ce qu'on veut. Ce que tout le monde ressent, c'est que le talent, il est là. Neymar a un talent monumental, phénoménal. C'est probablement le joueur le plus talentueux depuis Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Mais ça plafonne. Ça plafonne dans l'expression collective, et donc c'est le travail qu'il va falloir impulser et que Mauricio Pochettino doit mettre en place.
Le talent d'Achille dans le sondage Odoxa, c'est 42% des amateurs de foot qui jugent effectivement qu'il faut s'améliorer collectivement et que c'est le principal problème du Paris Saint-Germain. Gilles Verdez.
Il n'y a pas de leader dans cette équipe. Neymar n'était pas leader contre Manchester City. Quand Mbappé n'est pas là, il n'y a pas de leader sur le terrain. Il manque une âme, il manque un leader charismatique qui vous galvanise. Et ça, Pochettino, il était quand même venu pour transmettre ça à ses joueurs. Et là, on ne l'a pas vu. Pour le moment, je suis désolé.
C'est qui le leader à City?
Pardon,
c'est qui le leader à City?
Mais il n'y a pas de leader sur le terrain.
Oui,
il
n'y
a pas un patron. Il n'y a pas de patron.
Les leaders,
leader de City, c'est Guardiola. Quand vous avez Guardiola, il n'y a besoin de personne.
Fernandinho.
Les leaders, c'est une histoire. C'est quand ça gagne, il n'y a pas besoin de leader.
Mais il n'y en a pas. Quand ça gagne, il n'y a pas besoin de leader. Mais il n'y a pas d'un leader. La force collective, elle se transmet par un joueur. Il n'y avait pas de joueur.
Enfin, il joue pas toujours. Hein.
Non, mais non, il joue pas toujours.
Quand il joue, c'est le patron. Seb, il était pas au match aller.
Non, leader, mais quand il joue, c'est le patron.
Quand tu gagnes, vous voyez. Mais ce que je veux dire, c'est quand tu gagnes, il n'y a pas besoin de leader.
Eh ben, excusez-moi, c'est pour ça que le PSG perd alors là. Mais il n'y avait pas de patron. Et alors, pour répondre à votre question sur Neymar, bien sûr qu'ils sont obligés de le garder à n'importe quel prix. Si vous espérez garder Mbappé, vous êtes obligé de garder Neymar. Si vous laissez partir Neymar, Mbappé ne restera jamais. Je ne sais pas s'il va rester, mais en tout cas, Neymar est obligé de re-signer pour qu'il reste.
La réalité est un peu plus terre à terre. Neymar est resté parce qu'il n'avait pas d'offre.
Bien sûr.
Il n'y a aucune offre.
Non, mais
il n'y a aucun club en Europe.
Bien sûr. Mais pourquoi le PSG lui fait signer un contrat de 3 ans? C'est parce que vous êtes obligé de garder Neymar quand vous l'avez aussi. C'est gagnant-gagnant ou perdant-perdant.
Le contrat est sur les mêmes bases. 36, 37 millions de.
Il paraît qu'il aurait baissé un petit peu.
Il aurait baissé, ouais.
Après, on se trompe de combat, je trouve.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire que je suis d'accord sur le constat qu'il faut qu'il se dégage une identité collective de cette équipe. Mais ça, c'est la fin de l'histoire. Le début de l'histoire, c'est tout en haut. Et il faut qu'il y ait un projet de club. Il faut qu'il y ait du temps accordé aux gens qui s'expriment, soit sur un banc de touche, soit au poste de directeur sportif. Quand vous prenez Manchester City qui dispute, je le rappelle quand même, sa première finale de Ligue des Champions, qui va disputer sa première finale de Ligue des Champions, ça fait 13 ans qu'ils sont là, les investisseurs de Manchester City. Donc il faut du temps. Et quand Pep Guardiola est arrivé, il a connu des échecs. Alors relatif parce que c'est à leur échelle, mais il a connu des échecs en Ligue des Champions. Il n'avait jamais atteint, par exemple, les demi-finales de la Ligue des Champions. C'était un échec considérable vu les investissements effectués. Pour autant, il y avait des dirigeants qui croyaient en lui, qui ne l'ont pas remis
Sébastien,
en cause.
Et moi, je vous dis parce que c'est Guardiola, Sébastien, arrêtez. Moi, je te dis que entraîneur que Guardiola aurait été viré. Guardiola, on le vire pas, et c'est tant mieux. C'est parce que c'est Guardiola.
Moi, je pense qu'au Paris Saint-Germain, tout Pep Guardiola qu'il soit, il aurait été viré.
Jamais.
Mais bien sûr que si, parce qu'un matin, il y a l'émir du Qatar
qui se serait levé du mauvais pied et qui aurait dit allez hop, terminé.
Chacun son tour, Philippe Sanfourche.
L'histoire, elle a commencé
c'est
comme ça.
C'est pas un problème de gouvernance alors ?
Avec Carlo Ancelotti, on se souvient que ça a commencé comme ça.
Évidemment.
Carlo Ancelotti est arrivé dès la première année à emmener cette équipe en quart de finale de Ligue des Champions. Ça s'est joué à rien sur le match retour au Camp Nou. S'il n'y a pas la magie de Messi dans les 20 dernières minutes, c'est le PSG qui passe. Et donc, je veux dire, Carlo Ancelotti avait immédiatement impulsé ce qu'il fallait. Leonardo aussi, en faisant venir les bons joueurs. Le projet était parti sur les chapeaux de roue. Mmh. Et lorsqu'ils ont mis la pression à monsieur Carlo Ancelotti, qui était l'équivalent de ce qu'est Guardiola aujourd'hui il y a quelques années,
il
a tout gagné. Carlo Ancelotti, c'est un monstre au niveau de son palmarès et de ce qu'il représente. Ils l'ont traité comme un gamin et donc il est parti.
Ils l'ont convoqué dans une petite salle à Reims après une défaite 1-0 pour lui dire ça c'est terminé.
Bon, mais alors c'est un problème insoluble.
Mais pourquoi ?
Mais bien sûr que c'est insoluble.
C'est un problème de gouvernance. La FIFA ne va pas se virer lui-même.
On vous raconte des choses il y a 10 ans. Ils se sont un peu améliorés.
Sauf que
le PSG n'est pas spécifiquement venu pour gagner la Ligue des Champions. Pour le Qatar, le projet sportif passe loin derrière tout ce qui est acquis. Et ils veulent des marques, des noms. Mbappé, Neymar pour le Qatar. Tout est réussi.
Attendez. Vous êtes en train de me dire que le PSG a investi, que le Qatar a investi dans le
pour
PSG.
Pour autre chose que le l'image. Sport.
Mais pas pour totalement autre chose.
Quand totalement.
Même. Non, mais ça, alors tout totalement. Est un peu tout ah, est un peu sûr. Corrélé quand même, Christian. C'est-à-dire que si vous gagnez avec des champions, votre image va être meilleure.
Mais bien sûr.
Mais à choisir.
Et c'est pour ça que Neymar d'ailleurs est resté aussi parce qu'il y a la Coupe du Monde.
Mais à choisir,
vous pouvez pas vous dévouer.
Écoutez, prenez le projet de City.
Là, vous me sidérez.
Vous prenez le projet de City et vous prenez le projet du Paris Saint-Germain. Ce sont à peu près les mêmes investissements, c'est considérable. On dépasse le milliard. Ok. Mais à City, on recrute très cher, on dépense beaucoup d'argent pour un projet de jeu collectif. Vous voyez, il y a un projet de jeu et après, on essaye de trouver les joueurs qui rentrent dans ce projet de jeu. Au Paris Saint-Germain, vous avez bien compris que le projet de jeu n'existe pas. Et donc, on recrute des stars, des très grands joueurs, avec succès pour Neymar et pour Mbappé, par exemple. Parce que, par exemple, recruter Mbappé, c'était un succès. Recruter Navas à une moindre échelle, c'était un succès.
Di Maria.
C'est différent. Mais vous voyez bien que ce n'est pas du tout la même identité qui est cherchée. Vous le voyez quand même.
Mais oui, je le vois. Mais donc le problème Qatar, est insoluble. Oui,
mais c'est grave, bien sûr.
Le problème est insoluble.
Non, c'est pas grave. Parce que malgré tout, vous pouvez gagner une Ligue des Champions. Vous n'êtes pas passé loin l'année dernière. Vous n'êtes pas passé loin cette année.
Vous m'avez dit il y a deux minutes que l'objectif n'était pas gagner la Ligue des Champions.
C'est pas essentiel. L'essentiel, c'est que le Qatar se soit acheté une vitrine diplomatique.
Mais si, vous comprenez pas ce qu'on vient de dire là. Il y a un projet de jeu collectif.
Oui, j'ai compris ça. Mais vous êtes. Il y a deux minutes, vous disiez que l'objectif n'était pas de gagner la Ligue des Champions.
Non, c'est d'être une vitrine sportive et elle l'est.
Une vitrine et on peut parler des échecs et des insuffisances. On peut aussi évoquer ce qui est un formidable succès. C'est la valorisation de la marque. Le club du Paris Saint-Germain, qui tout sport confondu depuis 10 ans, et la marque qui a
une réussite capitaliste exceptionnelle.
Tant qu'on parlera de marque, tant qu'on consomme le football, on s'en sortira jamais.
Moi aussi, mais en revanche, c'est le projet du Paris Saint-Germain.
Alors, Tuchel, Chelsea, avec Thiago Silva, en Ligue des Champions face à City. Emery, c'est pas la gestion de Leonardo, mais néanmoins c'est la gestion donc de la gouvernance du Paris Saint-Germain face à Manchester United avec Cavani. Le PSG doit se sentir humilié.
Moi, ce qui a humilié le PSG, c'est que Emery perde 6-1 à Barcelone. Ce qui a humilié le PSG, c'est que Tuchel perde 3-1 contre Manchester à domicile après avoir gagné 2-0. C'est ces éliminations-là, 8e de finale. Tout le monde sait qu'au camp des loges, il n'y avait plus personne ne s'entraînait avec Tuchel les 6 derniers mois. C'est un super entraîneur. Il n'y a pas de souci.
Mais c'est le problème du club, c'est encore Dominique.
Mais il fallait faire quelque chose. Ah. On peut pas, aujourd'hui, on est toujours plus intelligent après. C'est facile de dire aujourd'hui, il fallait garder Tuchel, Thiago Silva, Cavani.
Il
y a des joueurs qui sont arrivés en fin de cycle, les entraîneurs qui étaient en fin de cycle.
Je parle d'humiliation. Est-ce que le PSG, au niveau des sentiments, on va être plus pragmatique, doit se sentir humilié, mais pire, est-ce que Leonardo, c'est pas un échec pour lui?
Mais quoi ?
Non, je crois pas.
Que ces joueurs. Déjà, vous me sortez de l'équation Manchester United et Cavani. La Ligue Europe, c'est la Coupe Intertoto européenne. Manchester United, c'est l'équipe qui a terminé 3e du groupe dans lequel le Paris Saint-Germain était. Mais sur le reste, je pense que de toute façon, Thomas Tuchel n'était pas un profil qui pouvait durer à terme au Paris Saint-Germain. Le problème, c'est pas ses compositions d'équipe, c'est pas la manière dont l'entraînement était mené. Le problème, c'est qu'il était en guerre frontale avec sa direction et qu'il prenait la parole publiquement dans les conférences de presse pour attaquer la politique sportive et la politique globale.
Mais ça, c'était la fin de cycle, ça. C'était la fin
de cycle. Quel est le profil de l'entraîneur qui pourrait rester au Paris Saint-Germain longtemps?
Je pense que Mauricio Pochettino a ce profil.
Pourquoi?
Encore une fois, j'aime rappeler que
il aime pas le changement. J'ai remarqué ça au match aller.
Pep Guardiola, après la qualification de City, ses premiers mots sont de remercier tous les gens qui à Abu Dhabi ont fait du travail positif depuis des années. Imaginez que c'est Tourelle qui aurait fait ça. Mauricio Pochettino est capable de le faire. Je dis pas que c'est bien, mais déjà quand il fait ça, il s'inscrit dans une politique globale de club qui lui permet peut-être de pouvoir travailler plus longtemps.
On en parlera.
Leonardo n'a pas choisi Tourelle et ça a joué sur beaucoup de choses.
On reparlera de la QPG.
Stop,
publicité, 19h29 minutes.
RTL, on refait le match.
Christian Olivier sur RTL.
On refait le match.
On fait le match un peu plombé parce que le PSG, on nous explique ici autour de cette table que le PSG n'a pas pour objectif de gagner la Ligue des Champions.
Vous avez retenu que ce petit bout de phrase de Gilles.
Comme tout journaliste, cher Sébastien Tarrago.
Ah bon ?
Le crack est désormais lié avec le club de la capitale jusqu'au 30 juin 2025. L'attaquant international brésilien s'est taillé une place parmi les légendes du Paris Saint-Germain. Le centre de gravité de notre ambitieux projet pour faire grandir le PSG se situe dans le cœur, le talent et l'implication totale de nos joueurs, c'est ce qu'a souligné Nasser El Khelaïfi. Voilà les termes du communiqué officiel du Paris Saint-Germain. Hein.
C'est bien écrit.
Le compte @RTL Foot. Baptiste Durieux.
Beaucoup de messages sur la prolongation du crack, comme vous dites. Message de Mouloud, qui est très content. Le timing de la prolongation de Neymar est parfait. Cela permet au club d'asseoir sa crédibilité sur la scène mondiale. Le projet du club est vendeur et fait rêver les plus grands joueurs. La marque PSG prend encore plus de poids avec Neymar et c'est aussi bien pour Mbappé. D'ailleurs, c'est un moyen indirect de répondre aux besoins de Mbappé, nous dit Mouloud, qui souhaite avoir des garanties concernant l'équipe de la saison prochaine. Et puis, très bon coup pour attirer des grands joueurs cet été. Neymar est une vitrine incroyable. Et puis, message d'Antoine qui est pas du tout d'accord. Je préfère un transfert de Neymar et trois latéraux de qualité qu'une prolongation du Brésilien. La crédibilité du projet, ce n'est pas Neymar, c'est les 23 joueurs du groupe et la gouvernance tout en haut.
Vous continuez de nous rejoindre sur le compte @RTLFoot. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h. Alors le crack est resté, on s'en réjouit, Gilles Verdez.
Absolument. Et alors, c'est aussi très bien joué. Le communiqué que vous lisiez avec brio est très efficace. C'est un contre-feu, évidemment, après l'élimination. Et ça, c'est tous les présidents le font. Quelques jours après, vous annoncez que Neymar prolonge. Et si vous le pouvez, quelques jours plus tard, vous annoncerez qu'Mbappé, lui aussi, si c'est le cas. Voilà. Je voudrais juste revenir sur Tourelle. Tourelle, il avait un défaut énorme. C'est que Tourelle, dans la verticalité parisienne, était plus proche de ses joueurs que de ses dirigeants. Comme disait Philippe, mais avec les joueurs, il avait une telle relation, y compris de sortie, etc., qu'il ne pensait plus avec certains, qu'il ne pensait plus du tout à s'entraîner, mais à être bien ensemble. Et il a privilégié les joueurs par rapport aux dirigeants. Quand vous faites ça à Paris, vous giclez. Non, il a giclé très vite.
Le problème du Paris Saint-Germain, c'est que quand un entraîneur veut faire des entraînements à 10h du matin ou à 9h30, eh ben il peut pas.
Vous n'allez pas réveiller Neymar à 9h30 quand même.
Bah voilà. faut pas réveiller les Brésiliens qui vivent à l'heure brésilienne.
Non, mais là, vous le dites avec humour. Je veux dire, c'est pas raisonnable. C'est pas raisonnable.
Mais Sébastien le dit et moi, j'ai pas
raison. Il a raison, Sébastien, de faire remarquer qu'on ne peut pas convoquer un entraînement à 10h30.
C'est de l'humour.
Non, mais oui, c'est de l'humour.
C'est un souci quand même.
C'est un vrai problème.
Et donc, Pochettino, bon, ok, il est arrivé avec de bonnes intentions. Comme toujours, on va voir combien de temps.
Il est plus politique. Il est plus politique.
Mais il fait à quelle heure ses entraînements, Pochettino, alors lui ?
Le matin.
Ça, il fait.
Oui, mais ça a déjà été
ça a déjà été repoussé un tout petit
un
peu,
petit
on m'a dit.
Peu, oui, un petit oui. Peu.
Ça, au début,
mais
c'était 10h.
Mais c'est un peu plus long que
oui, mais au début, c'était 10h. On m'a dit que c'était plutôt 11 maintenant.
Bon, parce le PSG, c'est pas un problème avec Neymar. D'ailleurs, Neymar reste. Mbappé va rester ou va pas rester là? Vous avez des informations? Messi va venir ou va pas venir?
Moi, je pense que Messi, il y a de très fortes chances qu'il reste au FC Barcelone.
Donc Mbappé va rester.
Non, mais après, attention. Là, on parle de dizaines de millions d'euros. Donc ça discute sec et il peut toujours se passer des choses.
Moi j'attends de savoir Christian si la UEFA va aller au bout de ses idées et exclure de 2 ans le Real Madrid
on va y venir d'Europe. On va y venir, c'est prévu, c'est dans le sommet.
Ça change le mercato mondial.
Ça c'est sûr.
Ça change le mercato mondial.
On va en parler tout de suite.
Si le Real Madrid exclut 2 ans, Haaland il n'ira pas au Real, Mbappé il n'ira pas au Real. et Eden Hazard, il n'y aura pas de
vous croyez un seul instant que le Real Madrid, que Barcelone et que la Juventus Turin, les trois renégats parmi les renégats, qui ne veulent pas payer les amendes exigées par l'UEFA, vont être pendant deux saisons suspendus de la Ligue des Champions?
J'y crois parce que ça veut dire que
vous rêvez.
Parce que les autres clubs, ça leur donne plus de chances
Vous rêvez, Dominique. Je prends le pari avec vous.
Ça donne plus de chances au Paris Saint-Germain, à l'Atlético de Madrid, à l'Inter Milan, à tous de gagner avec des champions, puisqu'il n'y a pas le Real,
Dominique,
il n'y a pas Barcelone, il n'y a pas...
Dès qu'ils sont suspendus, ils vont devant le TAS, et ils font comme Manchester City qui avait gagné la dernière fois, et ils vont broyer les instances.
Je ne dis pas que c'est comme d'habitude avec leurs avocats. Est-ce que l'UEFA... Mais il faut d'abord, avant d'aller devant le TAS, il faudrait que l'UEFA...
Zéro chance ou zéro risque, selon... En parlant d'humiliation, les autres clubs qui ont dit « Oui, monsieur, nous allons donc payer l'amende, elle est de combien l'amende ? 15 millions d'euros, c'est hallucinant, quoi. »
Ouais, non, mais vous me ferez pas
croire. Donc, tous les clubs renégats, pour les auditeurs qui nous écoutent, pardon, Sébastien, hein, ceux qui ont voulu monter la Super League avec les trois clubs précédemment cités, eux ont accepté, rubis sur ongle, de régler l'amende.
Qu'est-ce qui vous choque ?
Un peu d'amour propre. Un peu d'amour propre. Pas tout de suite, quoi. D'essayer de s'expliquer. Là, Barcelone, le Real Madrid et la Juve essayent de communiquer un peu sur. Voilà, on est dans la communication pour l'instant. Un peu d'amour propre.
Non, mais là, c'est pas possible. Il y a des arrangements. Vous n'allez pas me faire croire qu'on accepte ça comme ça. Enfin bon.
Vous êtes d'accord avec moi, Sébastien ?
Oui, j'ai du mal à. Dans un monde régi par l'argent comme ça. J'ai du mal à imaginer que ça passe aussi facilement, mais bon.
Mais parce que c'est pas les meneurs, hein. C'est pas les meneurs. Les clubs qui payent ne sont pas les meneurs. Les meneurs, eux, restent accrochés.
Et pire que ça, il y a une clause dans l'accord, dans le protocole, 100 millions d'euros d'amende si l'un de ces neuf clubs qui s'est courbé devant l'UEFA réfléchit à monter un autre projet de Super League.
Est-ce que ça tient au niveau juridique?
J'en sais rien, mais enfin,
je pense que c'est 900 millions d'amende. Je pense que ces neuf clubs-là, ils ont des fans, ils ont besoin de leur vendre des produits de merchandising et que ces fans sont très en colère en ce moment. Il fallait montrer qu'on était devenu, qu'on était rentré, les loups sont rentrés dans la bergerie ou sont sortis. Et donc, il faut que les fans reviennent acheter des places parce qu'un jour, les stades vont ouvrir, il fallait pas avoir des fans en colère pendant un an, donc tout le monde baisse la tête.
Enfin là, c'est harakiri. Tu dis publiquement, tu acceptes publiquement que tu as fait une énorme erreur et que tu vas, et donc tu vas en plus payer. Donc
15 millions, c'est rien, 15 millions pour avoir la paix sociale.
Tout commence à devenir des sous quand même.
Tout commence à devenir des sous, c'est le message que vous envoyez. C'est l'humiliation là.
Souvenons-nous de l'envahissement. C'est que dalle, 15 millions.
Souvenons-nous de l'envahissement du terrain en Angleterre. Les clubs anglais se disent attention, 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 il y a une révolte qui monte. Si on ne dit pas, si on n'aplanit pas tout ça, si on n'oublie pas tout ça très vite, nos supporters vont prendre le pouvoir, Monsieur Glazer va être évincé, tous les grands présidents ont peur, donc ils préfèrent payer pour acheter la paix sociale.
15 millions, c'est que dalle.
C'est la raison pour laquelle, si on fait le lien justement avec le débat précédent sur les mercato à venir et celui notamment du Paris Saint-Germain, il y a une fenêtre de tir là qui est assez formidable pour le PSG, parce que le fair play financier a explosé
en vol
comme un petit pop-corn. Et le Paris Saint-Germain et Nasser El Khelaifi sont identifiés comme des chevaliers blancs qui ont sauvé le football européen. Tout ça à un an et demi de la Coupe du Monde au Qatar.
Une vaste blague.
C'est open
quand même.
C'est open bar cet été. C'est-à-dire qu'en fait, ils nous font tous les 10 jours, d'une manière ou d'une autre, ils nous font passer l'idée qu'il y a un endettement, machin, qu'ils ont perdu 200 millions, que bien sûr qu'ils ont perdu, mais ça leur posera absolument aucun problème de rouvrir le robinet. Et tout ce qui est possible d'être fait cet été, à mon avis, sera fait.
Mais le fait que ce soit le chevalier blanc du football mondial, le Paris Saint-Germain, il y a vraiment des gens qui y croient ou pas ? Quelqu'un y croit ? Par exemple,
le problème n'est pas d'y croire. Le problème, d'accord, c'est qu'aujourd'hui, on parlait d'images. D'exploser les compteurs et de pouvoir recruter peut-être Lionel Messi en plus de garder Neymar, Mbappé et pourquoi pas Sergio Ramos.
À mon avis, puisque vous posez la question, cette Super League reviendra sur la table après la Coupe du Monde disputée au Qatar.
Ça fait 25 ans.
Après la Coupe du Monde disputée au Qatar. Les enjeux sont trop importants jusqu'au Qatar.
C'est bien pour ça qu'ils demandent aux clubs de signer des clauses pour éviter qu'elles reviennent sur le tapis très vite.
Mais la question de Sébastien était excellente, puisque juridiquement ça tient la route. Quoi.
Évidemment qu'il y serait allé. Non mais.
Bon, il ne sera pas pris Nobel de la paix, hein, t'inquiète pas. Hein.
Pardon,
Je sais pas, j'ai cru entendre qu'on le demandait pour Nasser Al-Khelaifi. On hésitait entre ça, une comparaison
non, mais,
avec Gandhi,
non,
je
mais
sais
politiquement,
pas.
Non mais quoi qu'on en pense, politiquement, on peut pas nier que Nasser Al-Khelaifi est bien joué.
Ah mais c'est pas, autre c'est chose,
pas, non mais chacun va pas dire qu'il est le plus sincère du monde, c'est pas le problème. C'est que de la politique, et politiquement, il a marqué un point, voilà.
Allez, politiquement, il a marqué
pour le moment,
un point.
Pour
évitons de dire qu'il l'a marqué sur le plan moral, quand même.
19h39, on fait le match. Dominique Sévrac, Philippe Sanfourche, Sébastien Tarrago, Gilles Verdez, après la pub, ciao Tauvin.
RTL, on refait le match. RTL, on refait le match. Christian Olivier.
La presque dernière ligne droite d'On refait le match à 19h42. Ensuite, à 20h, vous retrouverez Eric Silvestro, Xavier Domergue, Quentin Vasselin, Raymond Abou, je ne dois pas en oublier.
Giovanni
Castaldi, bien sûr.
Un homme de talent. N'oubliez pas, parce que son égo va en prendre un coup, ça va être terrible.
Gros égo de Giovanni Castaldi.
Mais c'est un incendie mondial, on ne parle que de lui. Partout où je vais, on ne parle que de lui.
Mais il le mérite.
Bien sûr.
Pas forcément, mais vous peu importe.
Moi, je pense que c'est un peu surfait, comme tu as l'air.
Mais
c'est que mon avis. Hein.
Qu'on parle de vous en bien ou en mal, l'essentiel, c'est qu'on parle de vous.
Oh, bah ça va alors.
Est-ce que vous allez parler en bien ou en mal de Tauvin? Ciao Tauvin, ciao Pantin, le film de Claude Berry, là. Oui. Voilà. Et c'est un bon choix. Tauvin qui part.
À la fin, moi, je trouve ça bien.
Oui, mais.
Moi, je trouve ça bien.
Attendez, parce que les auditeurs découvrent.
Je vais vous poser une question.
Ah oui,
je croyais qu'on était là pour répondre.
Oui, mais il faut que je contextualise. Cinq ans avec les Tigresses de Monterrey, le club de Gignac. Tauvin qui a 28 ans et qui fait un dernier gros contrat. Pour ou contre?
La réalité, c'est que personne n'en veut en Europe. En tout cas, pas les clubs dont lui rêve, qu'il a un salaire que personne ne peut lui offrir à Marseille déjà. Il est à plus de 400 000, il est à 420, 430 000 euros. Marseille était prêt à faire encore un effort pour le conserver. Mais sinon, les gens regardent les matchs. Donc, dans les bons clubs, très bons clubs européens, on n'était pas prêt à lui donner quoi que ce soit à cette hauteur. Et que, pour le coup, il va gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent au Mexique, et que nous on a une vision un petit peu étriquée de ces choses-là, mais c'est aussi une aventure à la fois de vie et footballistique exceptionnelle.
Vous allez quand tu l'as choisi.
Oui, mais tu le choisis vraiment. Pour jamais vraiment. Gignac, quand il est parti, c'était déjà parce que il pouvait pas espérer non plus grand-chose d'autre. Donc il a fait ce choix-là un petit peu par défaut. S'il avait eu la Juve, il serait allé à la Juve, Gignac. Bon, il avait pas la Juve, mais il a fait ce choix de vie. Et visiblement, il en est quand même très heureux. Et donc, c'est une belle aventure. Moi, je trouve que déjà, il va gagner beaucoup d'argent.
25 millions d'euros sur 5 ans, net.
Il voulait gagner beaucoup d'argent, il a le droit. Ça, c'est fait. Ensuite, il va vivre une aventure personnelle, je trouve, d'exception. Moi, je trouve que c'est extraordinaire, à un moment, de pouvoir avoir un métier qui vous permet de vivre des aventures extraordinaires.
Je ne savais pas que le championnat mexicain était votre championnat de référence, mais non, ça mais me moi fait je plaisir suis... de mais le découvrir.
Vous ne vivez qu'à travers la réussite traditionnelle.
Soyons francs,
dans un monde régi par l'argent.
Personne n'a parlé mexicain.
Qui suit le championnat mexicain?
Autour de cette table.
Personne n'a parlé mexicain.
Pour en parler. C'est un bon championnat,
Je veux pas qu'on croie que c'est un choix sportif, c'est tout. Mais après, tout est respecté.
Mais j'ai pas
c'est
dit que c'était sportif.
Je vous ai dit que c'était la Juve. Je trouve que Tauvin mérite plus. Je trouve que c'est un très bon joueur. Je suis déçu qu'il parte au Mexique.
Mais sincèrement. Mais je veux dire, tu dirais. Je sais pas, je suis surpris quand même. Il faut avoir du respect pour les autres continents.
Je pense que Tauvin méritait mieux.
Nous, on voit les choses qu'à travers notre fenêtre.
C'est quoi mieux,
quand même bizarre. C'est comme quand on dit que Rudy Garcia va au Spartak Moscou, d'un coup on se dit oh là là c'est la honte. Non, excusez-moi, mais le Spartak Moscou c'est pas la honte.
J'ai dit que Tauvin pour moi méritait mieux.
On regarde les résultats des clubs russes ou ukrainiens ces dernières années par rapport à ceux des clubs français, on s'aperçoit que c'est plutôt une montée en gamme que d'aller en Russie. Mais non, concernant Tauvin, moi je suis entièrement d'accord sur le côté aspect humain, aventure, nouveau. Mais j'ai quand même l'impression que c'est plus contraint que ça ne l'était pour Gignac. J'ai l'impression que la personnalité du garçon n'est peut-être pas celle que j'imagine la plus en adéquation avec ce type d'aventure. Et je me dis surtout que
c'est possible.
C'est une incompréhension mutuelle, quoi, d'un joueur qui peut-être demande un petit peu trop d'argent sur le moment avant de prouver, et de clubs qui sont, je pense, frileux. Alors il y a une interrogation, c'est physiquement. Après sa blessure, c'est vrai qu'il met du temps à revenir et on revoit plus le même. dans certains gestes, dans ses accélérations, dans ses crochets, on a l'impression qu'il a perdu 15-20% de ce qu'il était.
Et psychologiquement, et donc,
ça,
il est lessivé.
Ça,
Philippe,
pour moi, c'est une vraie raison.
Et psychologiquement, il semble lessivé.
Oui, c'est possible.
Mais... Bah, et là-bas, il va falloir quand même s'accrocher, hein, parce que les mecs, ils blaguent pas. Hein. Parce que Gilles a une vision du football mexicain.
Oui, mais ne soyez pas caricaturaux.
Comme si c'était de la 8e division de district.
Vous voulez dire qu'il va sauter
à
la corde ?
Mais non. Mais c'est pas ça. Mais il y a une pression folle. Il y a une pression folle. Il y a des stades pleins. Bientôt,
ça,
j'espère.
Ça, pour le coup, on peut dire folle. Que le fait d'avoir évolué à Marseille...
La pression, elle existe aussi, là-bas.
Moi, j'oublie pas que sur ces dernières années, quand le PSG mettait tout le temps des raclés à l'OM, sur, que ce soit au Vélodrome ou au Parc des Princes, eh ben, il était quand même souvent... le joueur qui émergeait. Il était quand même et pas plus tard qu'il y a 6 mois, Philippe, quand on a fait l'interview de Marquinhos, Marquinhos, il me cite 2 joueurs en Ligue 1, hein, Ben Yedder et Thauvin. Pour lui, c'est les 2 joueurs qui lui ont posé le plus de problèmes sur un terrain de football.
Philippe, dans les gros matchs, il n'était jamais là. Alors, il n'était jamais un pion.
C'est l'histoire d'un
Thauvin.
Mais bien sûr, dans les gros matchs, vous connaissez ses statistiques.
Sauf erreur, depuis 2013. Il a dû marquer 70 buts.
J'essaie de me souvenir. Dans les gros matchs, tout le monde sait que...
Mais 76 buts, ça me revient.
Mais quel joueur de l'OM avait des bonnes stats dans les gros matchs depuis quelques années ?
76 buts, c'est par là que vous commencez. Mais moi, vous voulez le comparer à Mitroglou, c'est votre problème. Moi, j'avais l'impression qu'on parlait d'un joueur qui était soi-disant un très bon joueur.
Oui, c'est un bon
donc
joueur.
Je le compare avec des très bons joueurs. Et je constate que face au top 5 de Ligue 1, il était... Quasiment toujours absent.
C'est quelqu'un qui est champion du monde par hasard, parce qu'il est là, parce qu'il fait pas de bruit, parce qu'il peut, faire une compétition.
C'est cruel,
mais il peut faire une compétition. Il peut passer un mois sans rien dire, et il y a aussi besoin de ce genre de garçon pour faire une liste de 23. C'est un garçon pour qui les grands matchs de Ligue 1 étaient déjà trop hauts. Donc c'est vous dire s'il n'est pas le niveau international, c'est tout. Mais c'est comme ça. Ça veut bien dire que c'est un mauvais joueur. Je sais pas. Julien Draxler.
76 buts. Julien 76 Draxler. Buts à Marseille depuis 2013.
Julien Draxler, il est champion du monde.
Si,
Christian.
Sébastien peut vérifier. Non, Sébastien.
Mais vous voulez qu'on vérifie le nombre de buts.
Oui, le nombre de buts.
Mais c'est pas ça. Julien Draxler, il met des buts. Il est champion du monde. Il n'a pas le niveau pour jouer au Paris Saint-Germain comme titulaire. Oui. Ça peut arriver. Lucas, c'est un très bon joueur, il a Tottenham, mais il n'a pas le niveau pour s'imposer durablement au Paris Saint-Germain. Unai Emery, c'est un très bon entraîneur, il n'a pas le niveau pour entraîner le Paris Saint-Germain.
Ok, donc Thauvin, c'est un choix de carrière, on est d'accord, et c'est un coup de fric, on est d'accord également.
Thauvin,
il n'y a pas de proposition européenne.
71 buts,
contre Lorient, pas le niveau des grands matchs.
Angers. Alors vous êtes dur avec Thauvin.
Mais non, c'est la
réalité.
C'est des faits, en fait.
Vous savez, c'est rigolo, quand il est arrivé en équipe de France, au début, on disait, les membres du staff se disaient, mais pourquoi il est aussi timide, timoré, il ose pas, c'est quoi c'est... En fait, il y a une question de niveau à un moment.
Bon.
Et après, effectivement, il a eu son rôle à jouer parce que c'est important, des joueurs qui font pas d'histoire dans une aventure comme celle de la Coupe du Monde. Mais rappelez-vous, il est entré quelques minutes contre l'Argentine, ça a failli se finir en désastre.
Bon, Thauvin, donc on va
c'était
lui souhaiter
pas de sa faute,
on va lui souhaiter bonne chance quand même,
hein,
au Tigres de Monterrey.
En plus, franchement, pour le coup,
du monde,
et sérieux, en plus, je le dis très sincèrement, moi je le connais pas personnellement ou de manière très très brève comme ça. Tout le monde dit vraiment que c'est un garçon charmant, remarquable dans l'état d'esprit, donc aucun souci.
Oui,
mais... Avant les tirs au but, les amis,
il y en a beaucoup.
J'en ai pas tellement là, en vérité. J'avais pas envie de
parler des faibles. Les tirs au but,
il y en a pas beaucoup. En revanche, alors, foison de messages sur le compte @RTLFoot, Baptiste Durieux.
Mais oui, sur Flotov, message de Marlon. Alors c'est très très positif. Hein. Il nous dit Thauvin et l'OM, c'était un peu je t'aime moi non plus, comme une histoire d'amour qui ne pouvait finir que de cette manière avant qu'elle dégénère. Champion du monde, 13e meilleur buteur de l'Olympique de Marseille. Éclate-toi dans ce pays, je vais y arriver, qui n'attend que toi. Merci et bon vent, Flotov. Et message de Guillaume également qui retrace un peu la carrière de Florent Thauvin. Thauvin aura performé dans le plus grand club de son pays. Je pense que c'est un Marseillais qui écrit ça. Tenté sans succès le rêve anglais, glané une Coupe du Monde et va désormais vivre la Dolce Vita avec sa famille au Mexique à base de ferveur et de football récréatif. Top carrière au regard de son plafond de verre, nous dit Guillaume.
Le football récréatif.
Donc 71 buts, une finale de Ligue Europe à Marseille depuis 2013. Il y a eu une parenthèse. Depuis 2013,
ouais, six mois
à Newcastle.
Un triomphe.
Le courant ne passait plus avec Payet, qui lui a un contrat à vie à l'Olympique de Marseille, je le rappelle.
C'est encore
ouais, mais pardon, mais Dimitri Payet, qui a des énormes. Qui n'est pas professionnel dans le sens où 4 mois dans l'année, il est trop gros. Mais c'est un meilleur joueur de football que Florian Thauvin. Il a prouvé davantage que Florian Thauvin.
Il n'y a pas photo.
C'est une
Payet,
évidence.
Il a été, souvenons-nous, à l'Euro 2016, sans Dimitri Payet, ça ne passe pas le premier tour. Enfin, je veux dire, c'est un joueur qui a des références.
Il ne pourrait pas s'asseoir pendant une compétition, pendant un mois, sur le banc.
Sans doute pas.
Ça.
Sans doute pas. Mais après, en revanche, c'est vrai qu'il y a, le bel exemple d'André-Pierre Gignac au Mexique, mais il y a aussi celui d'Andy Delors, qui est passé très très rapidement et qui est revenu parce qu'il n'a pas réussi à s'adapter au mode de vie mexicain et surtout à l'éloignement avec des membres de sa famille. Donc peut-être que Florian Thauvin reviendra dans 6 mois, dans un an.
Il faut manger épicé, hein, en général. Hein. Donc,
dans un grand club, peut-être qu'il reviendra dans un grand club parce qu'il le mérite.
Est-ce qu'il peut, ne plus revenir en équipe de France, hein. Ça fait 2 ans qu'il a quitté l'équipe de... Il y a quelques joueurs comme ça, hein, qui ont...
Ça paraît difficile.
Gignac, d'ailleurs. Ouais. Gignac,
Gignac avait été rappelé à l'Euro 2016 alors qu'il jouait au Mexique.
Ouais. Il était au Mexique depuis un an.
Ah mais non mais je c'est vous à Gilles Verdez, hein.
C'est pas la Major League Soccer, hein. C'est pas
championnat. J'ai pas dit ça, j'ai dit c'est voilà, c'est moyen.
Non, c'est que c'était un championnat seconde catégorie.
C'est correct, il y a de l'engagement
comme les États-Unis, comme voilà, émergent, non, intéressant.
C'est bien meilleur que
les États-Unis. Vous les avez vus contre le Bayern Munich ou pas?
Non mais qui sont encore des championnats de seconde zone. Vous n'allez pas me dire quand même que le championnat... Non mais on est écouté par des millions d'auditeurs, on n'allait pas me dire que le championnat mexicain est votre championnat de référence. Arrêtez de délirer.
Mais vous le mettez quoi?
Arrêtez de délirer. Il y a combien de ballons d'or qui joue au Mexique?
Pour vous, c'est le championnat belge, suisse, c'est quoi l'équivalent?
Le championnat mexicain?
Bah oui, c'est ça dont je joue.
Aujourd'hui, c'est... Ah, alors le championnat belge aujourd'hui n'existe quasiment plus, il faut le dire. C'est pour ça qu'ils vont.
Ils avaient l'équivalent de la Ligue des Champions également chez les Sud-Américains. Hein.
Mais évidemment. Oui, mais bien sûr. Mais j'ai vu leur match intercontinentaux là. Bon, voilà, c'est.
Bon.
Voilà.
Les tirs au but.
Très moyen.
Les tirs au but à 8 minutes de 20h. Les tirs au but et la fameuse question Ligue 2.
Ah, là, on vous laisse, c'est le moment où vous discutez en tête-à-tête avec Sébastien Tarago.
On fait ça avec évidemment beaucoup de tact et...
C'est une partie d'échec.
Oh, bah oui, c'est ce qui vous caractérise
alors,
le plus.
Alors, bien sûr, je suis très...
c'est Karpov, Kasparov de...
Mais non, sur la Ligue 2. C'est votre truc, la Ligue 2.
J'adore.
Alors, allons-y. Vous avez quoi comme question sur la Ligue 2?
Une question sur Clermont.
Ah mince, je vais être pris à défaut sur quelque chose.
Ah non, elle est très facile.
Ah oui, allez-y.
Vous êtes Auvergnat.
Oui.
Vous adorez Clermont.
Ouais. J'ai pas mis les pieds au Gabriel Montpied depuis 5 ans.
Peu importe. Peu importe.
La place du centre jaune.
On joue la
37e. Place de Jaude.
37e, c'est la 37e là.
37e. Oui, absolument.
Okay. Donc, quel est le cas de figure pour voir Clermont, votre équipe préférée, non, ce soir?
Non, mais si. Bah...
Monter en Ligue 1.
Non, mais en cas de victoire et que Toulouse affronte qui déjà? J'ai oublié.
Quand?
Quand?
Bah bravo.
Voilà,
non, quand? Ça, on peut pas. Non. Voilà. Il y a un cas de figure ce soir.
Non, mais
on le. Voilà, un cas de
figure. Clermont et défaite de Toulouse.
Et que Toulouse ne gagne pas.
Même voilà. Le nul passe, oui.
Pascal Gatien?
Non, mais pour le coup, allez, on reparle sérieusement. Ouais. Pascal Gatien, que je ne connais absolument pas, a une cote absolument folle parmi ses collègues de travail. Il a, par exemple, il y a 2-3 ans, été élu meilleur entraîneur de Ligue 2, alors que Clermont était 5e ou 6e, ce qui n'arrive jamais. Encore cette semaine, Frédéric Antonetti, l'entraîneur de Metz, a parlé de lui, en disant que c'était un très 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 bon technicien et qu'il ne comprenait pas pourquoi un club de Ligue 1 ne lui avait jamais donné sa chance. Il se trouve que c'est un entraîneur qui fait très bien jouer ses équipes. Alors pour l'instant, il n'a pas réussi à faire monter Clermont, mais il fait très bien jouer cette formation et tout le monde lui reconnaît des talents. Donc écoutez, si Clermont, attention, hein, parce que le stade est pourri, il y a un projet pour le rénover, mais ça prendra du temps. On va voir si jamais Clermont monte, on va pas vous promettre des ambiances de dingue, même si l'ASM Rugby, qui a perdu beaucoup d'argent cette année, ne serait plus totalement opposé à l'idée d'accueillir de temps en temps le Clermont Foot au stade Marcel Michelin.
Formidable plaidoyer,
bien sûr,
messieurs, de Sébastien Tarago, et pour Gatien, et pour la Ligue 2.
Ça m'est complètement égal.
Il n'y a même pas le calendrier, on parlait d'un plaidoyer.
Est-ce que l'actionnaire de Clermont n'a pas racheté encore un club cette semaine?
Une intervention volcanique.
Bon. Pardon?
Est-ce que M. Schaeffer, l'actionnaire de Clermont, n'a pas racheté encore un club cette semaine?
Je ne sais pas.
Il y a déjà un club en Autriche.
Il y a un autre enjeu, mais il y a des enjeux à tous les étages, comme dirait l'autre. Mais pour la montée en Ligue 1 ce soir, 3 Dunkerque. Un point suffit pour la montée de l'Estac.
Ah oui, avec Laurent Batles qui lui aussi est
formidable entraîneur,
une énorme cote et
que l'équipe annonce formidable.
Et que l'équipe annonce formidable.
Batles, formidable.
C'est
le Guardiola de l'Aube.
Oui, Gatien également.
Laurent Batles,
Furlan,
attendez. Non, c'est autre chose, Furlan.
Ah ben, c'est un bon entraîneur.
Formidable, Furlan. Mais ça, c'est voilà des entraîneurs magnifiques.
Vous avez raté Laurent Batles, le Guardiola de l'Aube.
Oui,
Batles, bon. Il est formidable. Vous n'aimez pas Batles?
Mais c'est pas une question d'aimer ou pas d'aimer. Non, c'est une question de pas exagérer.
Bon, en tout cas, mes amis d'équipe annoncent que Laurent Batles devrait être le prochain entraîneur de Montpellier.
Formidable pour Montpellier.
qui lui pourrait aller à Bordeaux.
Alors, vous avez remarqué, il n'y a pas eu de coup de sifflet. C'était un tir au but comme cela pour un genre de bonne compagnie. Maintenant, il va y avoir un coup de sifflet.
C'est pas très académique. L'avenir, un petit peu la course de.
L'avenir de Zidane au Real. Conférence de presse cet après-midi. Question posée sur son avenir. Réponse que je. Exact, au mot près, mais que je raccourcis un petit peu. Je ne vais pas poser de problème. 3 points de suspension. Le reste, ça ne m'intéresse pas. Zinedine Zidane, programme, ou plutôt départ programmé ou pas?
Oui. Ça, oui, sent la fin. Ça sent la fin, il l'annonce lui-même, il n'y aura pas de conflit, mais voilà, ces grognards vont partir, il y a un renouvellement, je ne suis pas sûr qu'il ait envie de l'assumer. Il partira, ça veut dire aussi, je pars quand je veux, mais je ne créerai pas de problème, donc ça risque de se faire en séparation à l'amiable.
Zidane a un plan en tête, Zidane a un plan en tête, prendre une année sabbatique, attendre que la Coupe du Monde au Qatar se déroule avec Didier Deschamps et prendre l'équipe de France.
Mais ça, c'est le plan que tout le monde évoque. Et la Juventus,
c'est un an et demi. Le plan de Zinedine Zidane.
Bah, une année sabbatique. Il faut des plans B dans ces cas-là quand même, parce que c'est très hypothétique. Imaginons que l'aventure de Didier Deschamps soit encore couronnée d'un succès.
Parce que la réalité, c'est que Dominique, c'est qu'il espérait déjà prendre la tête de l'équipe de France en 2018.
Même avant.
Et ça s'est passé à rien, à une élimination face à
Peut-être que Deschamps n'aura pas envie d'aller. S'il est champion du monde une deuxième fois.
Pourquoi il continuerait pas
Je sais pas, peut-être qu'il n'aura pas envie.
Oui, mais peut-être qu'il aura envie.
Les amis, j'ai bossé dans Marca cette semaine. Je suis allé voir Marca. Saison ratée pour Zidane ou pas, à votre avis?
Non, mais s'il obtient le titre espagnol,
il peut encore gagner le titre. Cet après-midi, l'Atlético et le Barça ont fait
mal. J'ai relevé des chiffres terribles. 88 blessures à gérer. 28 fois une défense changée. Des cas de Covid à l'appel et en dernière ligne droite avec notamment des joueurs en quarantaine, Ramos. Plus qu'en quarantaine. Valverde out à cause du Covid, tiens. Varane blessé également. Hazard, n'en parlons pas. Mendy, Carvajal, Vasquez out également. Ça a été une saison terrible.
Quand vous recrutez Eden Hazard, ce qui était quand même son envie.
Non, c'était pas son choix.
Il avait.
Non, c'était pas son.
Il voulait pas d'Eden Hazard.
Non, c'est pas qu'il en voulait pas, mais c'était pas son choix.
Il voulait pas que.
Ah, mais non, c'était pas son choix.
Il voulait Eden Hazard.
Non.
Il en voulait peut-être d'autres. Il voulait Pogba, ça c'est sûr.
Mais factuellement, c'était pas sa priorité en tous les cas. C'était pas sa priorité.
C'est pas les informations que j'ai. Et en tout cas, quand vous recrutez Eden Hazard, il y a quand même de fortes chances qu'il soit blessé la moitié de l'année.
Le foot féminin, le prochain championnat de France féminin passerait de 12 à 10 clubs.
Non.
Bonne ou mauvaise idée?
Mais ça sera pas de toute façon. Ça va rester à 12.
Ah bon? Vous avez des informations?
Ah oui, ça va rester à 12. Donc, c'est un non-sujet.
Egerberg, la Norvégienne de Lyon, a dit « Il y a le mondial féminin chez vous en France, ça a été qu'une petite illusion. »
Je ne sais pas comment c'est arrivé, parce que j'imagine que pour que ça fuite, c'est qu'il y a eu ce projet qui a été émis dans les instances. Mais les décideurs, les Olas et compagnie vont rester à 12.
Oui, et le problème, c'est toujours une question d'argent. C'est que vous avez aujourd'hui la majorité des clubs qui sont affiliés à des clubs qu'on connaît en Ligue 1 masculine, et que y a plus la faillite des droits télé fait qu'il n'y a plus d'argent. Et donc le football féminin, pour l'instant, ça ne rapporte pas d'argent, ça en coûte beaucoup. Donc on coupe ce qui ne rapporte pas d'argent.
Il me reste à vous remercier,
Merci beaucoup
pour RTL. Dominique Sévrac, le Parisien aujourd'hui en France. Le procureur dont fait le match, il n'y en a qu'un, c'est lui, c'est Gilles Verdez. Sébastien Tarago pour la chaîne L'Équipe.
Merci.
Un petit documentaire en préparation.
Le 25 mai, un documentaire sur l'Euro 2000. On reviendra sur les grandes victoires et sur l'histoire secrète des Bleus.
Le 25 mai prochain, la chaîne L'Équipe. On en reparlera.
Qu'est-ce qui se passe si Clermont monte ce soir, Christian? Qu'est-ce qui se passe si Clermont monte ce soir pour Sébastien? Qu'est-ce qu'il fait? Il a un gage? Il a quelque chose?
Non, je peux vous dire la vérité?
Je
vais pas regarder le match.
Il y a le championnat mexicain.
J'aimerais bien qu'on me paye pour aller au championnat mexicain.
Vous écoutez RTL, on va parler de Clermont ce soir.
Et j'écoute Giovanni aussi ou pas?
Avec Eric Silvestro, Giovanni Castaldi, Xavier Domergue, Quentin Vasselin et Raymond Abou. Une petite page en couleur. Merci à vous tous vraiment de votre fidélité.
Merci.
Et très bonne soirée à l'écoute de RTL. Ciao.